Alors, je vais vous lire deux histoires. Normalement, je voulais en lire qu'une, mais finalement, elle va être assez courte. Donc, je vais vous lire deux histoires de science-fiction. La première, qui n'est pas encore publiée, qui paraîtra en janvier, dans la collection Minisoon chez Syros. Et la deuxième, c'est ce petit bouquin-là, qui est très, très rigolo. Donc, je vais commencer par une histoire qui n'est pas très rigolote. Et puis, on finira sur celle-ci, ce sera beaucoup mieux. Alors, le texte s'appelle Libre. Dès que je suis malade, je fais toujours le même cauchemar. Je suis face à une porte gigantesque qui s'ouvre telle la gueule d'un monstre géant. Je pénètre dans des entrailles sombres. Il fait froid. Je ne distingue pas grand-chose, juste un ray de lumière à l'étage. Je sursaute alors que je m'élève dans les airs. Mes pieds sont comme collés à une plaque de verre qui me transporte au niveau supérieur. Lorsqu'elle s'immobilise, je me trouve devant une petite porte, précisément là d'où filtre la lueur. Aucune poignée ni serrure, rien pour ouvrir. Alors je pose mes deux mains sur la paroi glaciale qui coulisse aussitôt en émettant un long sifflement asthmatique. Une lumière vive m'accueille en m'aveuglant. Je me frotte les paupières et je distingue deux grands êtres étranges et poilus, à la tête parfaitement ronde, aux gros yeux noirs globuleux. Leur corps est entièrement recouvert d'un tissu gris et brillant, tel une seconde peau. Ils me fixent intensément. Des cris retentissent sur ma droite. Je tourne la tête et j'aperçois des ombres qui se battent de l'autre côté d'une baie en verre fumé. Soudain, des bras me saisissent sans ménagement. Je n'avais pas remarqué que les deux êtres étranges s'étaient approchés de moi. Tandis que l'un me force à baisser la tête, l'autre applique un drôle d'objet dans mon cou. Je me débats, en vain. Une vive douleur me vrille la nuque, là, juste derrière l'oreille gauche, et je perds connaissance. Je me réveille en sueur. Amu est mon prénom, mais tout le monde m'appelle rigolote parce que je ris tout le temps. Non, en fait, pas tout le monde. Seulement les terriens qui vivent sur notre planète et qui s'occupent de nous. Ils n'arrivent pas à nous différencier. Et nos prénoms sont trop semblables pour eux. Alors, ils nous donnent des surnoms. Mon âge? J'en ai aucune idée. Mais selon l'analyse des terriens, j'ai 10 ans. Ah oui, je suis une fille. Ça ne se voit pas tout de suite, parce que notre corps ne se transforme pas comme celui des terriens. Nous sommes petits et maigres, sans poitrine, ni fesses rebondies, sans poils, ni cheveux. Notre peau est de couleur pourpre. Nos yeux, au globe oculaire totalement rose, ne sont que deux fentes minuscules. Et nous ne nous parons d'aucun vêtement. Amada est ma planète. Enfin, la planète sur laquelle je suis née parce que cette boule aride ne m'appartient pas. Il y fait toujours très chaud. Trop chaud. À perte de vue, ce n'est que sable et roches brûlantes. Un paysage mordu par un soleil impitoyable. Ma mémoire est incertaine, mais il me semble que ce désert est ponctué de rares et minuscules îlots verdoyants et gorgés d'eau. Ou bien ai-je rêvé? Amu, debout! C'est ton tour d'aller chercher de l'eau pour la toilette. La voix de Cadu, mon unique ami, me rappelle à la réalité. Mon corps est encore faible de la fièvre qui l'a dévoré toute la nuit. Je tente doucement de me lever. J'ai des vertiges. Je me mets à quatre pattes. Je pose mes mains sur les branchages qui servent de parois. Et avec un effort surhumain, je me redresse. Une jambe après l'autre. Je flageole. Amu, s'impatiente Cadu. Nous aimerions bien nous laver avant la dure journée qui nous attend. C'est bon, j'y vais. J'enjambe avec précaution plusieurs corps endormis et j'atteins l'entrée du dortoir. Il n'y a pas de porte. C'est inutile car les branches sont si mal liées entre elles qu'il y a des trous de la taille d'un enfant. À l'extérieur, j'inspire profondément, l'air chaud, mais pas encore brûlant. Le soleil ne va pas tarder à déployer ses rayons ardents, aussi je ne dois pas lambiner. La nuit est si noire qu'il est difficile de se repérer. On ne voit rien du tout. Cela en est même oppressant. Mais moi, j'aime bien la nuit. Je me dirige grâce au son d'hiver, le vent sur le sable ou sur les brindilles sèches qui jonchent parfois le chemin, quelques rares insectes nocturnes qui cavalent à la recherche d'une proie ou encore le murmure de l'eau à l'approche du bassin. Je me sens mieux, certainement le fait de me dégourdir les jambes et de respirer un autre parfum que celui confiné du dortoir où nous dormons tous entassés les uns contre les autres. Je dévale le talus escarpé et sablonneux pour atteindre le bassin construit par les terriens. Ils sont vraiment très intelligents. Ils ont réussi à acheminer l'eau jusqu'ici grâce à un simple tuyau. C'est magique. Je plonge ma main droite dans la tiédeur de l'eau et de la gauche, je tâtonne à la recherche du récipient qui sert à transporter le précieux liquide. Une fois celui-ci rempli, je le soulève précautionneusement. Surtout ne pas perdre la moindre goutte. Pour le porter jusqu'au dortoir, rien de plus simple. Nous, les Amadas, nous avons le sommet de la tête plat. Des deux mains, je maintiens le récipient tout en escaladant le talus friable sous mes pieds. L'eau tremble et tangue sans toutefois passer par-dessus bord. De retour au dortoir, je pose mon fardeau. En heurtant le sol, le récipient résonne et le clapotis de l'eau agit comme une cloche. Immédiatement, une nuée d'enfants sort du dortoir. Il y en a des joyeux, des grincheux, des grognons, des rieurs, des insouciants ou des endormis. À peine le seuil franchi, ils font leur pipi du matin, n'importe où. Cela me laisse un peu de temps pour ma toilette, car comme c'est mon jour de corvée d'eau, j'en ai la primeur. De mes deux mains, je forme une coupe, puis je puise un peu d'eau que j'étale soigneusement sur mon visage. Je frotte, les doigts parfaitement joints, afin d'éviter que le liquide ne s'échappe. Certaines gouttes capricieuses parviennent parfois à se faufiler. Aussi, je reste bien penchée au-dessus du récipient pour qu'elles retombent dedans et non sur le sable qui les absorberait avec gourmandise. Le soleil séchera ma peau. Je me redresse et cède ma place aux autres enfants qui sont maintenant près de moi. Malgré l'apparent désordre, c'est chacun son tour, du plus âgé au plus jeune. Je m'esquive. Les bulles ne vont pas tarder. Les bulles sont des véhicules envoyés par les terriens pour nous conduire là où ils ont besoin de nous. J'aime ce moment où je suis enfermée dans ce cocon transparent qui file aussi vite que le vent et qui me protège de la chaleur torride de ma planète. Je m'y sens en sécurité. Je profite de cet instant de solitude rare pour admirer le paysage d'Amada. Je survole d'abord les dunes de sable, rouges, brunes ou jaunes. Elles semblent respirer et onduler telles des serpents en changeant de visage au gré du moindre souffle d'air. Puis se profilent les nombreux plateaux rocheux. Ils s'imposent, une fois le désert de sable passé, et s'étale à perte de vue. Parfois, dans certains de mes rêves, je traverse à pied ce paysage brûlant à la recherche d'un peu d'eau, d'un endroit frais, de l'ombre rachitique d'un arbuste isolé, ou encore d'un coin de verdure improbable. Derrière moi, toute une population désespérée et mourante me suit. Destination atteinte dans 5 secondes, m'avertit une voix monocorde dans l'habitacle. Je saute de mon fauteuil et j'attrape le vêtement, une combinaison grise, que je dois enfiler avant de sortir de la bulle, car les terriens ne veulent pas nous voir nus. Le temps de me battre avec la fermeture et mon cœur s'emballe. Mes doigts tremblent. Je n'ai encore jamais eu la chance de faire partie intégrante du petit noyau intime d'une famille. Et oui, c'est mon premier jour de travail au sein d'une famille terrienne sur la parcelle qu'ils se sont appropriée à presque 2 heures de vol du dortoir. Et j'en suis toute excitée. La bulle atterrit et aussitôt s'ouvre la coque transparente. Une chaude brise m'enveloppe. Des parfums subtils et étrangers à mon odorat me caressent les narines. Des couleurs vives dansent devant mes yeux, du vert, du rouge, du jaune, du violet, toutes plus éclatantes les unes que les autres. La végétation luxuriante qui m'entoure me grise. Un contraste saisissant avec le décor aride que je viens de survoler et qui a toujours été mon quotidien. « Rigolote est arrivée !» s'écrie une voix enfantine. Je me décide enfin à sortir de la bulle. Mes pieds nus foulent l'herbe tendre et soyeuse. « Dépêche-toi, rigolote, on t'attend tous avec impatience, tu sais !» me presse le jeune terrien. Je ne peux m'empêcher de glousser devant tant de précipitations et d'excitation. Je cours derrière lui, les larmes aux yeux, tant je suis émue. Je me sens soudain importante, considérée et protégée. Allez savoir pourquoi. Et là, au bout de l'allée, tout au bout, la maison se découpe. Une énorme bâtisse blanche au volet mi-clos. « Bonjour, rigolote !» dit la femme aux cheveux longs qui m'ouvre les bras. « Bienvenue chez nous !» Je me dandine quelques secondes, ne sachant pas trop quelle attitude adopter. Les terriens que j'ai connus jusque-là refusaient tout contact physique. Mais pourquoi hésiter, puisqu'on m'y invite ? J'avance, et les bras m'en serrent brièvement, puis me repoussent. « Je m'appelle Anne, voici Marc, mon mari. » Elle pose une main sur la tête du jeune garçon qui est venu à ma rencontre. « Robin !» présente-t-elle en souriant. « Sarah !» ajoute Marc en poussant doucement devant moi une petite fille aux grands yeux verts et aux joues rebondies. Je reste là à sourire bêtement. J'ai l'impression de me trouver sur un autre monde, ou de rêver tout simplement. En arrivant sur cette planète, nous vous avons sauvé en vous donnant accès à l'eau. Il est normal qu'en retour vous nous aidiez, n'est-ce pas ? J'acquiesce vivement, un sourire tenace accroché à mon visage. Bien, tu es une brave petite. Tu t'occuperas du jardin. Il faut soigner les fruits et les légumes, bêcher la terre, enfin, tout ce qu'un jardin réclame d'attention. Mais prends garde, ne mange rien du potager. Non seulement ce qui y pousse ne t'appartient pas, mais en plus, pour toi, cette nourriture, c'est du poison. Tu sais ce que ça veut dire ?
Oui,
dis-je en gloussant. Anne et Marc se regardent en haussant les épaules. Est-ce que Rigolote a le droit de venir dans ma chambre ? Demande impatiemment Robin, avec de l'espoir plein les yeux.
Non, non, mon chéri,
répond sa mère. Elle n'est ici que pour le jardin et ne doit surtout pas entrer dans la maison. C'est pas bon pour elle. Tandis qu'une moue attristée déforme les traits de Robin, Sarah tire sur la manche de son père.
On a le droit de jouer avec elle dehors quand même.
Ou elle peut nous rejoindre dans le bassin, enchaîne Robin.
Non, elle aura beaucoup trop de travail. Allez, allez, ne la retardons pas plus.
La maman se tourne vers moi. Voici ton déjeuner et une gourde d'eau. Économise-la bien, tu sais comme l'eau est précieuse sur ta planète. Mais je ne t'apprends rien. Dans une main, je reçois deux pilules, et dans l'autre, la gourde. J'en rougis de bonheur. Quand le soir arrivera, la bulle te ramènera là où tu vis. Tu n'as pas le droit d'aller ailleurs, c'est trop dangereux. Heureusement, nous sommes là pour vous protéger et vous dire ce qui est bon pour vous. Et je ne les en remercierai jamais assez. Dans le centre de formation à la base spatiale des Terriens, nous apprenons beaucoup. Par exemple, comment extraire la poudre bleue du sol d'Amada, tant convoitée par les Terriens, pour ensuite travailler dans les mines ou encore la mécanique pour réparer leurs machines. Moi, j'ai appris à jardiner, à connaître les plantes. Aussi, je ne suis pas dépaysée par le travail que j'ai à effectuer. Bêcher, biner, planter, tailler, arroser, soigner. Et le jardin est immense. Les genoux dans la terre, le dos courbé et les mains en activité, je fouille le sol humide et collant. Je hume son doux parfum. Ils sont où tes parents à toi ? Je sursaute et me redresse. Robin me détaille avec curiosité, tandis que Sarah se cache derrière lui. Ma bouche s'ouvre pour répondre, mais aucun son n'en sort. Mon front se plie sous la concentration. C'est comme si dans ma tête s'élevait un brouillard terrible qui masquait tous mes souvenirs.
Tu n'en as pas ?
Demande Sarah de sa toute petite voix. Ne sois pas idiote, la sermonne son grand frère. On a tous des parents. Il se tourne vers moi. Ils sont morts ? Je ne me rappelle plus. Ma gorge se noue. Les enfants, venez manger ! Le frère et la sœur se mettent à courir en direction de la maison, mais Sarah s'arrête subitement. Elle pivote et plante son regard dans le mien. Ben alors, tu viens pas à table avec nous ?
Non, dis-je en souriant. Je ne mange pas comme vous. Ta maman m'a donné deux gélules.
La fillette hoche la tête et rejoint sa famille attablée à l'ombre d'une impressionnante glycine. Je les observe. Ils parlent et rient. Ils engloutissent des plats fumants et je me demande comment ils font pour manger autant. Je fouille dans la poche de ma combinaison et en ressort une des deux pilules. Je la tourne un moment entre le pouce et l'index, puis l'avale d'un coup avec une large gorgée d'eau. C'est ma première journée dans cette famille et je m'y sens tellement bien. Les jours passent sur le même mode. Tous les matins, Robin et Sarah attendent que je sorte de la bulle pour s'accrocher à moi, puis m'entraîner avec eux dans le jardin. Juste le temps de dire bonjour à leurs parents et je me mets au travail. L'eau coule en abondance. Ici aussi, elle sort toute seule d'un long tuyau. Mais d'où vient-elle ? Comment les Terriens ont-ils pu la trouver si facilement ?
Rigolote, ne gaspille pas l'eau !
Je sursaute. Je rêvassais tout en me nettoyant les mains.
Oh, pardon, madame.
Te laver ne sert à rien puisque tu vas te salir de nouveau, précise-t-elle d'un ton sec.
J'avais le jus d'une fraise sur les doigts et je ne voulais pas en avaler par inadvertance.
Tu as bien fait, acquiesce Anne d'une voix radoucie. Tes prédécesseurs ont payé de leur vie leur imprudence et nous ne voudrions pas que cela t'arrive.
Mais inutile de faire couler l'eau si longtemps la prochaine fois.
Oui, madame. Mais quand tu auras fini, tu rempliras le bassin pour que Robin et Sarah s'amusent. Il fait une chaleur sur cette planète. La nuit, dans le dortoir, je pense avec ravissement à chaque journée écoulée. Des journées à prendre soin du jardin potager pour que ma famille ne manque pas de nourriture. Lors de mes pauses, j'observe Robin et Sarah profiter de la fraîcheur de l'eau sur leur corps,
tandis que dans le bassin, construit à leur intention. Leur peau est si fragile, les terriens ne sont pas habitués à une telle chaleur. Le bourdonnement d'un insecte attire mon attention. Je ne peux pas le voir tant la nuit est noire. Il semble voleter d'un corps endormi à un autre corps endormi. Je soulève doucement le bras de Sanu posé sur ma poitrine, puis la jambe de Letu. Enfin, je m'assieds sur ma couche, les genoux repliés contre mon ventre. J'ai envie de sortir, mais j'ai pas le droit. Les terriens nous l'interdisent, pour notre sécurité. En fait, je suis préoccupée. Je n'ai aucune nouvelle de Cadu depuis 4 jours. Ça arrive de temps en temps que des enfants ne rentrent pas de leur travail. On ne sait pas où ils sont, ni ce qu'il advient d'eux. Si l'on questionne les terriens, ils répondent que ces enfants ont été envoyés ailleurs. Mais Cadu, jardinier comme moi, était mon ami, et ne plus le revoir m'attriste. Je m'allonge sur le dos, les bras derrière la tête. Mes yeux sont grands ouverts, mais je ne distingue rien. Je perçois un faible mouvement sur ma droite, puis le crissement de pas sur les brindilles qui tapissent le sol en terre battue. Je me raidis. Une main se pose sur mon bras. « N'aie pas peur, c'est moi !» murmure une voix. « Cadu ? Moins fort !» implore-t-il. Je me mords la lèvre inférieure. « Fais-moi une place !» dit-il si bas que je l'entends à peine. Je me décale pour qu'il puisse s'installer à mes côtés. « Où étais-tu ? » je lui demande enfin. « J'ai mangé des fruits, et comme tu peux le constater, je ne suis pas mort. Les terriens nous ont menti. Quoi ?»« Chut ! Mais tu n'avais pas le droit de faire ça. Cette nourriture ne t'appartient pas. Amu, s'il te plaît, écoute-moi. » Son calme m'intrigue, aussi je me tais. Quand je suis arrivée ce matin-là dans le jardin, c'était comme si les légumes et les fruits parés de rosée me suppliaient. « Croque-nous, allez, vas-y, croque !» J'ai pas pu résister. J'ai d'abord goûté une fraise. C'était si délicieux que j'en ai englouté plusieurs, puis des tomates. Alors que je portais une feuille de salade à ma bouche, j'ai vu une ombre. C'était mon maître qui s'était planté devant moi. Son visage était sévère. Il m'ordonnait de partir. Il m'a dit que je ne reviendrais plus, que je l'avais déçu. Cadu se racle la gorge et poursuit. Lorsque je suis remontée dans la bulle, j'étais à la fois triste et terrorisée par mon insouciance. J'allais mourir. Pendant une bonne partie du trajet, j'ai guetté avec angoisse la moindre réaction de mon corps, sans m'en rendre compte que je ne volais pas en direction du dortoir. Tout à coup, j'ai entendu un étrange grésillement, puis j'ai ressenti une douleur atroce dans la nuque, comme si on m'arrachait l'oreille gauche. Au même moment, la bulle s'est mise à tanguer vivement et à foncer vers le sol. J'ai été projetée contre le tableau de bord et la bulle s'est écrasée. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, il n'y avait que des débris autour de moi. Le soleil était déjà bas dans le ciel. J'avais mal partout, mais surtout à la nuque. J'ai porté ma main derrière mon oreille gauche et mes doigts ont effleuré un trou bordé d'un mélange de croûte, de sang séché et d'éclats métalliques. C'est là que je l'ai vu, sur le sol, noyé dans mon sang. Un cylindre minuscule, noirci par endroits et déchiqueté par d'autres. Il n'était pas plus grand qu'un ongle et de la taille du trou que j'avais derrière mon oreille. C'est quoi, à ton avis ? Pour y avoir réfléchi longuement, je pense que c'est un objet utilisé par les terriens pour effacer certains de nos souvenirs. Mais pour quelle raison ? Pour mieux nous manipuler. Et si nous désobéissons, ils nous tuent. Ils déclenchent à distance un crash de la bulle et nous disparaissons sans laisser de traces. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir vivant. Choquée par cette conclusion, je m'apprête à rétorquer. Mais Cadu plaque un doigt sur ma bouche. Rends-toi compte, mon cerveau n'est plus embrumé. Depuis l'accident, j'ai retrouvé des souvenirs que j'avais oubliés. Comme il me fallait trouver de l'eau, j'ai repensé à cette oasis. Je fronce les sourcils, je reste toutefois silencieuse. J'ai marché longtemps pour l'atteindre, continue Cadu, mais je n'étais pas inquiet. Pour la première fois depuis longtemps, je savais où j'allais. La chaleur était suffocante et cela m'était égal. Pourquoi ? Tout simplement parce que je me sentais libre. J'aurais bien aimé voir le visage de mon ami, distinguer la fièvre dans ses yeux, parce que sans aucun doute, Cadu était malade. Mais l'obscurité dans le dortoir m'en empêchait. La bulle file à vive allure. Je ne regarde pas le paysage. Je songe à la conversation nocturne avec Cadu. Je repense au désespoir de mon ami quand j'ai refusé de l'accompagner jusqu'à cette oasis dont il n'arrêtait pas de parler et où se trouveraient mes parents et les siens. Quand les terriens ont colonisé Amada, la première chose qu'ils ont faite a été de séparer les enfants de leurs parents pour façonner des esclaves dociles et reconnaissants, m'a expliqué Cadu. La plupart des adultes se sont pliés devant la puissance des terriens et travaillent dans diverses exploitations. Les rares qui se sont rebellés, une poignée, ont choisi la fuite, car comment se battre contre des forces supérieures ?
Ces rebelles vivent aujourd'hui dans l'oasis que j'ai décrite, préférant mourir libres plutôt que de se laisser exploiter. Ils sont tristes de nous avoir laissés, mais courir le désert pour trouver une miette de nourriture et une gorgée d'eau n'est pas une vie pour des enfants. Je me suis fermée à ce que mon ami avançait, refusant de le croire. Comment des êtres si gentils pourraient-ils faire une chose pareille? Des êtres qui savent faire jaillir l'eau, des êtres qui nous apprennent à vivre, des êtres qui nous donnent tant, nous qui n'avons rien. Seulement voilà, Cadu a semé le doute dans mon esprit. J'ai bien senti une légère boursouflure derrière mon oreille gauche. Ce cauchemar récurrent lorsque je suis malade, serait-il des bribes de souvenirs enfouis dans ma mémoire? Impossible. Alors que je sors de la bulle, Robin, comme à son habitude, se précipite dans mes bras. Son corps est tout mouillé. Il sort du bassin dans lequel il passe son temps pour se rafraîchir. Bien sûr, je trouve stupide de gâcher tant d'eau pour un simple plaisir. Une eau qui est si précieuse sur Amada. Mais grâce aux terriens, elle semble intarissable. Sarah est malade, m'annonce Robin. Elle a mangé trop de cerises. Mon front se plisse. Je ne comprends pas. Les fruits ne sont pas bons pour vous non plus? Elle a juste fait une indigestion, m'explique leur maman qui nous a rejoints. Je ne connais pas ce mot et je n'ose plus poser de questions de peur de passer pour une idiote. Qu'as-tu, rigolote? Demande Anne. Tu ne souris pas et ton visage est sombre. J'ai envie de tout lui raconter. Sa douceur m'y invite, mais je me retiens. J'ai très mal à la tête, je réponds. Je ne mens même pas. Depuis les révélations de Cadu, c'est comme si mon crâne allait exploser. Comme si quelque chose voulait en sortir, mais n'y arrivait pas. Alors, pour ne pas aggraver ta migraine, tu travailleras à l'ombre. Justement, il y a des tomates à cueillir. Pourquoi Cadu m'a-t-il dit que les terriens étaient nos ennemis? Anne est si gentille. La fraîcheur du potager apaise ma migraine. Je travaille sans relâche, buvant régulièrement quelques gorgées d'eau à ma gourde. Les tomates attendent sagement dans plusieurs gros paniers, tandis que maintenant j'arrache les mauvaises herbes. Puis, je m'affaire auprès des salades, des courgettes et des poivrons. Les légumes sont magnifiques, charnus et d'une belle couleur. Leur odeur me chatouille les narines. Mon regard s'y attarde souvent. Le visage de Cadu se superpose aux tomates d'un rouge éclatant. Non, je ne dois pas y goûter. Et si ce qu'il m'a raconté était vrai? Je grince des dents et plonge mes mains dans la terre. J'arrache. Je gratte le sol avec mon râteau. Mon regard se pose sur les tomates. Encore? Non, Amu, tu n'as pas le droit. Travaille. Je fouille. J'arrache. Je gratte. Les tomates m'appellent. Je salive. Mais comment puis-je saliver sur un aliment que je ne connais pas? Je revois alors la petite Sarah croquer à pleines dents dans la chair ferme et juteuse une grosse tomate bien rouge et encore tiédie par le soleil. Un liquide visqueux coule sur son menton. Elle ferme les yeux de bonheur. Ma main s'approche du panier. Elle caresse la rondeur de chacun des fruits. Je jette un coup d'œil à droite. À gauche, derrière moi, personne. J'extirpe une tomate et la colle sous mon nez. Elle sent bon. Je caresse mes lèvres avec. Elle est douce. Je croque. Je suis étonnée par la saveur sucrée qui éclabousse ma gorge. Une pointe d'acidité exacerbe ce goût suave. Je croque. Sous mes dents, la chair ferme éclate, libérant les pépins enrobés d'une substance gluante. C'est frais et doux sur la langue et le palais. Un vrai délice. Maman ! À travers les pieds de tomate, je distingue le dos de Robin qui s'éloigne en direction de la maison. « Maman ! » hurle-t-il à nouveau. « Rigolote mange tous les fruits !» Mon exquise découverte a été de courte durée et me laisse un arrière-goût amer au fond de la gorge. Marc m'a attrapé par le bras et m'a jeté sans ménagement dans la bulle, tandis qu'Anne me fixait les lèvres pincées. Je n'ai plus peur d'être malade ou de mourir à cause des fruits, mais je suis triste d'avoir déçu ma famille d'accueil et de ne plus jamais revoir les enfants. Je m'en veux terriblement. Dans la bulle, tandis que j'ôte lentement ma combinaison, un horrible grésillement agace mes tympans. Un soubresaut me fait perdre l'équilibre. Je me rattrape de justesse. La bulle tangue puis change brusquement de direction, tandis qu'une vive accélération me projette en arrière. Ma tête heurte violemment le plancher. Une terrible douleur derrière l'oreille gauche m'arrache un cri. Je me redresse péniblement. La bulle oscille de plus en plus et se dirige droit vers un énorme rocher. Affolée, je cherche un endroit où me réfugier. Impact! Une violente secousse suivie d'un craquement sinistre et je suis projetée hors de la bulle par une brèche occasionnée lors de la collision. Le sable amortit ma chute. La bulle s'écrase à quelques mètres de moi. Stupéfaite, je la regarde s'embraser. Je m'assieds lentement. J'ai mal à la hanche et à l'épaule droite, mais je suis toujours en vie. Je tâte derrière mon oreille gauche. Mes doigts effleurent une boursouflure anormale d'où soigne du sang. Quelque chose dépasse.
De mes ongles, je m'en saisis et tire d'un coup sec, en grimaçant de douleur. Je découvre un minuscule cylindre noirci et déchiqueté. Je le jette le plus loin possible. Et je n'ai plus le cerveau embrumé. Cadu avait donc raison. Les terriens mentent. Je me redresse, puis je regarde le paysage autour de moi. Je sais d'instinct où je dois aller. Une oasis à plusieurs heures de marche. Une oasis que je connais depuis toute petite. Il me reste de l'eau dans ma gourde. Il va faire nuit. Mais j'aime la nuit. Les sons me guideront. Je suis libre. Oui, Cadu avait raison. Donc le deuxième texte sera beaucoup plus rigolo. Ça va pour l'instant? Alors le deuxième texte s'appelle « Robot, mais pas trop ». Je m'appelle Adam Golden. J'adore la nouvelle maison que papa et maman viennent d'acheter. Dès que je siffle, un robot à roulettes déboule pour ranger mes jouets. Quand je crie « Tarzan !», mon lit se transforme en toboggan. Les toilettes aussi sont surprenantes. Il faut chanter les premiers couplets de « il pleut, bergère » pour actionner la chasse d'eau. Quelle rigolade! Enfin, si on veut, parce que certains appareils sont déréglés. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Parmi tous les robots, il en existe un qui reste toujours calme. Il ressemble tout à fait à un humain et s'appelle André. Son nom veut dire « Androïde, nettoyeur, domestique, rarement énervé. » Je demande à papa. André marche avec des piles? Non, ce sont les robots qui fonctionnent avec des piles. André est un androïde. Il mange et il respire comme nous. Alors quelle est la différence entre lui et nous? Les androïdes n'ont pas de maman et pas de papa. Ils sont fabriqués industriellement dans des cuves et sont programmés pour répondre aux besoins des humains. André porte le même gilet rayé que Nestor, le domestique des albums de Tintin et Milou, une très vieille bande dessinée qui date de près d'un siècle. Il a une bonne tête sympa, toute ronde. Il est très discret. Il répète « À votre service, monsieur, dame » et fait tout ce qu'on lui demande. André dort dans une cabane du jardin. J'aimerais lui rendre visite dans sa petite maison, mais maman veut que je le laisse tranquille. Il a besoin de se reposer, sinon il ferait mal son travail. C'est le jour de la rentrée. Je suis tellement stressée que dès la première heure, je demande à Suzanne Calvin, notre maîtresse, si je peux aller aux toilettes. D'accord, mais dépêche-toi, Adam. Je saute de ma chaise et me précipite vers les WC. Avant d'en sortir, je chante à tue-tête comme on le fait à la maison. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Je recommence la chanson 4 ou 5 fois, sans résultat. Et je réalise tout à coup que les toilettes de l'école sont des toilettes normales. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chanter. Je tire bêtement la chasse d'eau et je sors tout penaud. Malheureusement, le mal est fait. Monsieur Dupressoir, le directeur, attend les bras croisés derrière la porte. « Eh bien, Adam, on chante dans les toilettes au lieu d'aller en classe. Je serais curieux de savoir ce que va en penser ton père. » À midi, à la sortie de l'école, il aborde papa venu justement me chercher. « Votre fils m'inquiète, » commence le directeur. Et il explique ce qui s'est passé. « Désolé, » répond papa. « Adam a pris des habitudes dans notre nouvelle maison. Et des habitudes, vous savez ce que c'est. Vous voulez dire que chez vous, votre fils chante à chaque fois qu'il va aux toilettes? Juste le début de « il pleut, bergère ». C'est comme ça que fonctionne notre chasse d'eau. » Le directeur a du mal à le croire. « Je vous assure, » insiste papa. Je lance. « Si vous voulez vérifier, venez à la maison. » Monsieur Dupressoir m'observe d'un œil suspect, puis il déclare. « J'accepte. Je suis vraiment curieux de voir ces toilettes en chanson. » Je viendrai avec mon épouse après l'école, disons, vers 17h. Ça vous convient, monsieur Golden? Oui, c'est entendu. Au retour, papa me regarde avec un air catastrophé. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Tu sais très bien qu'on ne peut inviter personne chez nous. Trop de robots sont déréglés. Il faut s'attendre à tout avec eux. Et maman explose quand on lui apprend la nouvelle. Quoi? Le directeur de l'école et sa femme ici? Ils sont venus boire le thé, précise papa embarrassé. Mais vous êtes fou, complètement fou! J'ai l'impression d'avoir commis une bourde, moi. Monsieur et madame Dupressoir sonnent à 5h pile. Meuh, fait la sonnette programmée pour imiter le meuglement d'une vache. « Tiens, voilà des bêtes à cornes !» crient les voisins dans le jardin.
« Pardon ?» demande le directeur.
Papa s'empresse d'ouvrir la porte et s'excuse. « Ne faites pas attention, les voisins sont un peu fatigués d'entendre cette sonnette. »«
Je les comprends, » glousse Madame Dupressoir.
« Vous parlez d'un accueil ?» Je la regarde en essayant de cacher mon air dégoûté. Elle a un nez énorme avec deux narines qui ressemblent à des cavernes, des grottes de nez. Maman se précipite sur le palier en exhibant un très beau sourire forcé.
« Bienvenue, c'est un vrai, vrai plaisir de vous avoir parmi nous. »
Je trouve qu'elle en fait un peu trop.
« Ainsi donc, commence le directeur en embrassant du regard l'extérieur de la maison, vous avez emménagé depuis peu. »«
Oui, répond papa, il y a tout juste un mois. »
Monsieur Dupressoir s'essuie les pieds sur le paillasson et avance dans le couloir.
« Non !» s'écrie maman en cachant ses yeux avec ses mains. Un bras mécanique jaillit du plafond. Il saisit le chapeau du directeur, le broie et le jette par terre. Puis il emmêle furieusement la chevelure du visiteur et retourne dans son logement.
« Donald !» hurle Madame Dupressoir.
Les cheveux du directeur ressemblent à une assiette de spaghettis. Mes parents ne savent plus où se mettre.
« Nous sommes vraiment, vraiment désolés, » bredouille papa. « C'est un robot conçu pour ôter délicatement le chapeau des invités quand il s'essuie les pieds sur le paillasson. Mais je sais pas ce qu'il lui prend, une fois sur deux, il déraille. Nous vous dédommagerons, c'est promis. »«
André ?» appelle maman. Notre androïde arrive d'un pas tranquille. Il s'incline devant les invités et annonce. « À votre service, monsieur, dame. » Il ramasse le chapeau écrabouillé et l'enfonce dans la poubelle de l'entrée sous les yeux effarés du directeur.
« Je vous en prie, asseyez-vous, » propose maman aux invités en leur désignant le salon.
Des coussins immobiles flottent dans les airs à hauteur de fesses. Monsieur et Madame Dupressoir choisissent les deux plus beaux. « 70 kilos, 126 grammes, » annonce le coussin du directeur. « 82 kilos pile, » déclare celui de sa femme. Monsieur et Madame Dupressoir se regardent avec des yeux larges comme des rondes serviettes.
« Ce sont des coussins pèse-personne, » explique maman.
« Ça surprend toujours au début, mais on s'y habitue. Vous désirez du thé ?»«
Avec plaisir, » répond Madame Dupressoir d'une voix inquiète. Elle ajoute, « Je pense que mon coussin est déréglé. »
Maman frappe des mains et attend. Rien ne se produit. Elle sourit pour garder une contenance et frappe une seconde fois. Une troisième fois. André apparaît enfin avec son plateau sur lequel trône une théière. Quatre tasses, un verre, un sucrier, une assiette pleine de biscuits et du jus de fruits.
« À votre service, monsieur et dame. »
Il dépose le tout sur la table du salon, calmement, et retourne dans la cuisine.
« Il est lent ?» s'étonne le directeur.
« Il est très calme, » rectifie papa. « Ça fait du bien dans le monde excité où nous vivons. »«
Vous l'avez acheté où ?»«
Il faisait partie de la maison, » explique maman. « Je ne me plains pas. Il lave les vêtements, les repasse, brique les sols, cire les parquets, s'occupe des lits et de la vaisselle. Vraiment, c'est un bon androïde. »«
Il est propre ?»
demande Madame Dupressoir.
« Oui, il se lave dans sa cabane tous les matins. »
La femme du directeur gigote sur son coussin pour se rapprocher de maman et lui murmure à l'oreille.
« Il ne se révolte jamais ?»«
Jamais. Il est très obéissant.
Pourquoi »« Pourquoi Le vôtre fait des siennes ?»
Madame Dupressoir jette un regard vers la cuisine pour s'assurer qu'André ne revient pas et chuchote.
« Albert, c'est le nom de notre androïde, voulait faire partie de la famille. Vous vous rendez compte ?»
Il voulait avoir une chambre à lui. Alors ni une ni deux, on l'a rapporté au centre de gestion des androïdes. Le nouveau est charmant. Ça ne l'ennuie pas de dormir dans la cave, à côté du broyeur à ordures.
Personnellement, je trouve que les androïdes sont parfois plus humains que certains humains, signale papa.
Sa remarque jette un froid. On entend des mouches voler. De vraies mouches, je crois. La femme du directeur hausse les épaules en fixant mon père, l'air de dire « Vous vous croyez malin ?» Puis elle engloutit goulûment un premier biscuit. « 82 kilos et 23 grammes », annonce aussitôt son coussin.
« Vous avez pensé à faire un régime ?»«
De quoi je me mêle ?» s'emporte Madame Dupressoir. Elle fronce les sourcils et ses deux grosses narines se plissent. Je me retiens de rire, mais c'est difficile. Maman, elle, est très très gênée. Elle est si perturbée qu'en servant son invité, elle commet une gaffe irréparable.
« Vous voulez combien de sucre dans votre nez ?»«
Oh pardon, je voulais dire dans votre thé ?» Madame Dupressoir manque de s'étrangler. Elle tend sa tasse en fusillant maman du regard. J'en profite pour me resservir de jus de pomme. L'ambiance est tellement électrique que le directeur décide d'intervenir.
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je voudrais jeter un coup d'œil à votre fameuse chasse d'eau.
Volontiers, répond papa. Il se lève et conduit notre hôte dans le couloir.
Je vous suis,
lance Madame Dupressoir qui ne veut surtout pas rester seule en compagnie de maman. Une fois dans les WC, papa chante. Il pleut, bergère. Aussitôt,
la chasse d'eau se met à fonctionner avec un bruit de cascade assourdissant.
Alors ça, s'étonne Monsieur Dupressoir, j'ignorais l'existence d'un tel système.
Je m'exclame. Vous voyez, je n'avais pas menti.
Enfin, quelque chose d'amusant dans cette maison, déclare la femme du directeur d'un air pincé.
Donald, je veux la même chose chez nous.
Ben, Joséphine réfléchit. On ne va tout de même pas chanter chaque fois qu'on ira aux toilettes.
Pourquoi pas? Tu chantes bien sous la douche, toi.
Moi, je voudrais Alouette.
Alouette, gentille Alouette.
Non, pas ça, pas ça.
Mais Madame Dupressoir s'obstine. Je te plumerai le bec, je te plumerai le...
Et un robot surgit de la chambre de papa et maman, juste à côté, et la soulève au-dessus de nos crânes en poursuivant.
« Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. »«
Lâchez-moi !» hurle Madame Dupressoir.
« Mais lâchez-moi, voyons !»
Et le robot chante de plus belle.
« Et la tête, et la tête, et le bec. »«
Ah !»«
Aidez-moi !» crie le directeur. « Qu'est-ce que vous attendez pour m'aider ?»«
Il n'y a rien à faire, se désespère papa. Elle a déclenché le robot chargé de nous déshabiller avant qu'on se mette au lit.
Quoi ?» s'étrangle le directeur.
On l'a essayé une fois et on s'en souvient encore.
La perruque de Madame Dupressoir quitte son crâne et atterrit dans la cuvette des WC. Ses chaussures, elles, disparaissent par la fenêtre ouverte pour finir dans le jardin au milieu des poireaux. Le robot s'acharne maintenant sur la robe.
« Au secours !» crie la femme du directeur.
« Mais faites quelque chose !»
Tentant le tout pour le tout, papa balance une grande claque dans le dos du robot et, au miracle, ses bras mécaniques lâchent leur victime. Le problème, c'est que Madame Dupressoir retombe sur ma tête.
Bien fait pour ma pomme, je n'avais qu'à m'écarter.
J'ai l'impression d'être engloutie par une avalanche de fesses. Vous imaginez le gros titre sur Internet ? Joséphine Dupressoir écrabouille l'enfant Golden.
Ma tourterelle ! Gémit le directeur en se penchant sur sa femme.
Tandis que papa avait récupéré les chaussures dans le potager, André part à la pêche à la perruque dans la cuvette. Il la ressort d'un air digne et l'attend à Madame Dupressoir qui la remet sur son crâne d'un geste automatique. On dirait qu'elle est coiffée d'une vieille serpillière dégoulinante.
« J'ai cru mourir »
pleurniche-t-elle. « Et moi alors ?» j'ai envie de dire. Nos invités crapahutent vers la sortie. André leur ouvre la porte en déclarant d'un ton poli « À votre service, monsieur dame. » Le lendemain à l'école, le directeur se comporte comme si rien ne s'était passé. Mais à la récréation, je devine qu'il ne me quitte pas des yeux à travers la fenêtre de son bureau. En tout cas, j'ai de plus en plus mal à la tête. Les fesses de Madame Dupressoir ne m'ont pas raté. Hein. Maman vient me chercher à la fin des cours et s'inquiète de mon état.
Comment te sens-tu ?
Pas très bien. J'ai l'impression que mon cerveau s'embrouille. Le soir, maman me demande de mettre la table et au lieu de répondre « oui », je réponds « table ». Elle s'arrête de cuisiner et s'approche de moi. «
Qu'est-ce qui t'arrive, Adam ?
Rien ? Alors j'ai du mal à entendre. Plus tard, papa vient me souhaiter bonne nuit dans mon lit. « Faites beau rêve, » murmure-t-il. Au lieu de répondre « bonne nuit, papa », je dis « rêve ». Il me regarde d'un air bizarre. « Tu as dit « rêve » ?» Je répète « rêve ».
« Eh bien, » dit-il avec un sourire, « puisque tu m'y encourages, fiston, cette nuit, je vais essayer de rêver. »
J'ai beaucoup de mal à m'endormir. Angoissée, j'appelle ma mère. « Qu'y a-t-il ? » me demande-t-elle. Je me sens tout bizarre. Par moments, je ne sais pas pourquoi, je répète le dernier mot que j'entends. C'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement.
« Ça ne durera pas, » me promet-elle.
Elle sourit en passant la main dans mes cheveux. « Ne te fais pas de soucis, Adam, endors-toi. À demain. »
« Demain. »
Le matin suivant, sur le chemin de l'école, je questionne mon copain Arthur. « Tu crois qu'on va avoir une interro aujourd'hui ?» Il me répond « Sûrement. » Et une douleur traverse soudain mon cerveau. Le mot « sûrement » résonne dans mon crâne comme un écho. Je serre le poing tellement j'ai mal. Arthur ne se rend compte de rien et me demande « À ton avis, les autres ont appris leur leçon ?» Je lâche. « Sûrement. » Le mot est sorti de ma bouche sans que je puisse l'arrêter. « Elle va peut-être nous interroger sur les androïdes ?»«
Sûrement. »
Il se tourne vers moi et soupire. « Arrête de répéter toujours le même mot. »«
Sûrement. »
Installés à nos places, nous sortons de nos poches nos ordinateurs et les déplions sur nos tables. Ils sont aussi légers que des morceaux de tissu. La maîtresse gronde, Arthur, parce que le sien est couvert de morve.
« C'est pas de ma faute, madame. Je le confonds toujours avec mon mouchoir. »
Mademoiselle Calvin prend sa voix grave et déclare. « Ce matin, interrogation. Voici le sujet. Pensez-vous qu'un jour les androïdes ne seront plus les esclaves des humains ? Vous avez une demi-heure pour traiter la question. » Chaque élève s'active sur son clavier. La maîtresse s'approche de moi et sursaute en découvrant ma réponse sur mon écran.
« Qu'est-ce que ça veut dire ? Je demande si les androïdes cesseront un jour d'être des esclaves et monsieur Adam a le culot de répondre par un seul mot, sûrement.
Tu crois que tu vas passer en classe supérieure avec une réponse pareille ?
Sûrement. »
Toute la classe pouffe de rire.
Vous trouvez ça drôle ? S'énerve Madame Calvin. Mademoiselle Calvin, pardon. Sûrement. Nom d'un pixel. On va voir si le directeur va rire de tes bêtises. Monsieur Dupressoir nous reçoit dans son bureau. Qu'est-ce qu'Adam Golden a encore fait ? Soupire-t-il. Il répond, s'indigne la maîtresse. Il répond, s'étonne le directeur. Dis-moi, Adam, tu es fier de toi ? Sûrement. Et il continue, s'exaspère Mademoiselle Calvin. Monsieur Dupressoir se penche vers moi et me fixe droit dans les yeux. Tu ne serais pas en train de me prendre pour un imbécile par hasard ? Sûrement. C'en est trop. La punition tombe comme un couperet. Tu remplaceras le robot balayeur pendant 5 jours. Tu verras. Tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Sûrement. À la cantine, les copains et les copines s'inquiètent. Tu vas te faire renvoyer ? Sûrement. Demain ? Sûrement. La vache ! Sûrement. C'est seulement en fin d'après-midi, quand je quitte la classe, que je retrouve mes esprits. De retour à la maison, j'apprends à mes parents ce qui s'est passé. Ils me regardent atterré. Tu répétais toujours le même mot ? M'interroge papa. Oui. Alors demain, on ira voir un spécialiste. C'est grave ? Maman caresse ma joue. Non, ne t'en fais pas, Adam. Ils partent disputer un match de volley contre une équipe de robots de niveau débutant. Moi, je reste dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi, mais mon prénom n'arrête pas de résonner dans ma tête. Adam, Adam, Adam. Et soudain, je pâlis. Et si Adam voulait dire quelque chose comme « androïde détraqué avec les mots » Voilà pourquoi je dis n'importe quoi. Je suis peut-être un androïde. Mes parents me cachent la vérité. Je sanglote tout seul. C'est alors qu'André me rejoint. Il s'assoit calmement à côté de moi et me demande « Pourquoi tu pleures ?» J'en crois pas mes oreilles. « André, tu peux dire autre chose que « à votre service, monsieur, dame ?»« Bien sûr. Alors pourquoi tu parles jamais ?»« Parce que personne ne me le demande. » Il a raison. Je déglutis et bredouille avec anxiété. « André, est-ce que je suis un androïde ?» Il réfléchit et répond par une question. « Qu'est-ce qui différencie les humains des androïdes ?» Je pense tout à coup à ce que m'a dit mon père et déclare. « Les androïdes n'ont pas de papa et pas de maman. Ils sont fabriqués dans des cuves. » « Exactement. Nous avons été créés par des savants et nous avons notre date de mise en service ici. » Il retire sa chaussure gauche, sa chaussette et me désigne la plante de son pied. Je lis, écrit en tout petit. « André, mis en service le 14 juillet 2030. »« À toi, » me dit-il. Je me mets pieds nus, mais je préfère ne pas regarder. J'ai trop peur. Je soulève mon pied gauche et le montre à André, puis le droit. « Il n'y a rien, » confie-t-il. « Tu es un humain ?» Fou de joie, je lui saute au cou. « Oh, merci, merci, merci !» Il me répond un peu gêné. « À votre service, monsieur, dame. » Je desserre mon étreinte et le dévisage. Je devine quelque chose qui ressemble à de la tristesse dans son regard. Alors je lui dis « Je me fiche que tu sois un androïde. Moi, je veux être ton ami. »« Tu es gentil. » Je lui demande « Quand tu étais petit, qui prenait soin de toi ?» Il me fixe, étonné. « Une machine ?» Elle me serrait dans ses bras, comme ça. Et il me serre dans ses bras et me dorlote. Elle me chantait « Au clair de la lune, mon ami robot. » André fredonne la comptine. Au bout de quelques secondes, je ferme les yeux. Je me sens bien. André croit que je me suis endormie. Je sens soudain une larme couler sur mon bras. « Adam, murmure-t-il très bas, ne regarde jamais tes plantes de pied. » Voilà, c'est fini. Ça vous a plu ? Moi, j'aime bien la dernière histoire. Elle est trop rigolote.